De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama aujourd'hui avec des films qui sont en salle depuis le 30 octobre. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et des films qu'on a plutôt appréciés.
Oui, alors moi cette semaine j'ai fait le tour du monde. Je suis allée en Mongolie, j'ai également été dans la Cordillère des Andes. Je vais vous parler du film Un monde plus grand avec Cécile de France et également d'un documentaire qui s'appelle La Cordillère des Songes.
Et puis aujourd'hui, pas de blind test, mais deux interviews. Celle de Yvan Attal, qu'on a pu rencontrer pour son film Mon chien stupide, et puis celle de Marco Bellocchio, qui était à Cannes et qui présentait Le Traître, donc son dernier long métrage. Et puis Manu, en toute fin d'émission, eh bien, nous parlera d'une sortie DVD, celle de deux films d'Yves Boisset. Ainsi débute Cinérama avec ce petit voyage en Mongolie.
Avec vous, j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas?
Corinne est journaliste, elle est en deuil depuis la mort de son mari dont elle n'arrive pas à surmonter l'absence. Au cours d'un reportage en Mongolie, dans un petit village traditionnel, elle est prise d'une transe incontrôlable et se découvre des pouvoirs de chamane. Elle va alors quitter son métier de journaliste pour se former au chamanisme, peut-être qu'elle gagnera mieux sa vie d'ailleurs, hein. Va alors commencer pour elle une nouvelle quête, au cours de laquelle elle espère pouvoir éventuellement communiquer avec son mari défunt. Elle part en quête d'un monde plus grand.
Je pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques.
Tu dois maintenant apprendre à t'en servir.
Je sais pas ce que vous me racontez. Fais flipper cette bonne femme. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non?
T'as pas le choix. C'est ton destin.
Et c'était Paul qui m'appelait. Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas?
En Mongolie pour faire avancer la science.
Ça dérange qui?
Moi, ça me dérange.
Tes pouvoirs grandissent.
T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte.
J'essaie juste d'aller mieux, Louise.
Qu'est-ce que j'ai à perdre?
On s'est juré qu'on se reverrait.
Alors, ce qui est d'ores et déjà plaisant, eh bien, c'est que le film rentre très vite dans le vif du sujet, sans fioritures. Il installe le décor, son personnage et son profond mal-être en quelques scènes très simples. Et puis, le film a beau parler d'introspection, de quête intérieure, il n'est jamais contemplatif et surtout, il n'est pas partisan. Réalisé par Fabienne Berthaud, il est adapté du livre « Mon apprentissage chez les chamans » de Corinne Sembrun, un livre autobiographique de cette ancienne ethno-musicienne devenue donc chamane, qui raconte le bouleversement qu'elle a ainsi traversé dans sa vie. Corinne Sembrun est notamment la personne eh bien, grâce à qui le monde des neurosciences a commencé à s'intéresser à la transe chamanique depuis 10 ans. Alors si le livre est, j'imagine, hein, parce que je ne l'ai pas lu, le récit de l'apprentissage du chamanisme avec donc une vision extrêmement subjective, celle de son auteur, le film lui prend quelques distances par rapport au sujet du film. C'est-à-dire que si vous êtes eh bien, un peu rétif à tout ce qui est monde parallèle, fantômes et autres histoires d'esprit et de réincarnation, vous trouverez quand même un intérêt à ce film qui se contente d'osciller justement entre deux mondes, celui de la science et celui de l'occulte. La réalisatrice du film, donc Fabienne Berthaud, est quelqu'un qui aime les personnages de femmes, on lui doit les films Franky, alors pas la version avec Isabelle Huppert, hein, la version avec Diane Kruger. Pieds nus sur les limaces, Sky encore avec Diane Kruger également, pardon. C'est-à-dire, eh bien, que des films avec des rôles féminins très forts et très fragiles à la fois. Et dans un monde plus grand, eh bien, elle trouve une nouvelle fois la juste distance pour donner à Cécile de France un très beau rôle sans prendre les émotions du spectateur en otage pour autant. Et puis en dehors de sa très belle façon de filmer sa comédienne principale, elle filme également très bien les montagnes de Mongolie, ses forêts, les villages d'éleveurs de rennes. Elle en donne vraiment une image très loin des steppes arides que l'on s'imagine. Moi, très sincèrement, dès que le film a été terminé, j'étais sur Google, j'ai tapé « Aller à Oulan-Bator ». Mais vraiment, ça donne une image complètement onirique. Et on a vraiment envie de découvrir ce pays, sa culture, grâce au film.
Et le billet est pris, alors?
Non. Pas encore. Parce que justement, je suis journaliste, je ne gagne pas assez.
Alors, Un monde plus grand, c'est en salle depuis le 30 octobre, tout comme Mon chien stupide, le dernier long métrage d'Yvan Attal.
Et maintenant?
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Adaptation d'un roman de John Fante, écrivain américain connu sur le tard. Mon chien stupide est le 6e long métrage de Yvan Attal. Le film raconte, comme le roman, hein, l'histoire de Henri, la cinquantaine pas forcément fringante. Un romancier qui a jadis connu le succès, mais qui par la suite n'a écrit que des romans de mauvaise qualité. Et ça, bon, bah, on peut en trouver plusieurs, hein, des romanciers comme ça. Et pendant cette période de disette créatrice, eh bien, il n'a pas tout perdu, puisqu'elle a eu 4 enfants et une longue vie commune. Il pense alors que c'est sa famille qui a anéanti toute puissance créatrice. Un soir de rage, l'arrivée d'un gros chien dans le jardin dont personne ne veut va lui permettre petit à petit de vider la maison. De quoi pense-t-il, eh bien, renouer avec la qualité littéraire. Le titre du film, hein, est tiré du nom qu'un des fils donne au chien, soit Stupide, un animal caractérisé surtout par sa libido démesurée qui lui fait préférer les mâles à toute autre créature. Et alors ça peut être des chiens comme des hommes. Hein. Si Yvan Attal a conservé beaucoup d'éléments du roman, il l'a également transposé à notre époque, car le livre se déroule dans les années 60 dans une Amérique encore raciste. Il en a profité pour étoffer le rôle de sa femme, joué eh bien, par sa propre femme, Charlotte Gainsbourg. Alors le livre est cruel et probablement qu'Attal ne restitue pas suffisamment cette cruauté, même s'il prend beaucoup de plaisir à égratigner la famille et les enfants, un sujet qui n'est pas forcément facile. Le réalisateur, qui est aussi l'acteur principal, parvient avec un parti pris de mise en scène qui convoque les plans séquences, les intérieurs contraignants du foyer, à dérouler une comédie qui, si elle n'est pas nerveuse, prend le temps de cerner son sujet. Les dialogues sont particulièrement bien écrits et donnent lieu à des séquences dont certaines eh bien, sont délicieuses. Il s'agit quand même de faire partir toute la famille du foyer. Alors on va écouter, eh bien, Yvan Attal qui va défendre son film.
Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes.
C'est mon producteur de l'époque, Claude Berry, qui avait les droits et qui m'a proposé de le faire il y a 20 ans. Ben, je n'avais pas 20 ans de vie commune et 3 enfants et je suis passé à côté de ce livre. 20 ans plus tard, on me l'a redonné, on me l'a reproposé et là, je me suis totalement identifié à ce type qui en peut plus de sa femme et de ses enfants. S'il n'arrive plus à travailler, c'est de la faute de ses enfants. S'il a mal au dos, c'est de la faute de ses enfants. Tout, c'est de la faute de ses enfants. Et je suis pas loin de penser comme lui.
Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire.
Et j'avais le livre devant moi et j'avais la famille devant moi. Alors je savais plus lesquels étaient les vrais ou les faux. Et vraiment, le livre m'a beaucoup amusé. Oui, parce que je partage l'humour de ce livre. Évidemment, je trouvais que c'était la meilleure façon de rendre hommage à sa famille, de leur dire « tu me fais chier », mais en même temps, une fois que tout le monde est parti, le vide est énorme et le gars est désespéré. C'est la meilleure manière de leur dire qu'on les aime, quoi.
Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve, car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur.
C'est effectivement peut-être la crise de la cinquantaine. Ça veut dire un homme qui regarde derrière lui, qui regarde devant lui et qui se dit « est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui me reste à faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? De quoi j'ai envie ?» Moi, j'entends ça beaucoup autour de moi. Une crise, c'est une remise en question. Moi, je vois plein de gens qui me disent ça va être quoi ma vie maintenant ? J'aimerais bien me réinventer une vie, j'aimerais bien trouver des choses aujourd'hui qui me repassionnent, quoi.
Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer.
Je garde Stupide !
Pardon ?
C'est son nom, et ici sa maison.
Alors moi, je connaissais rien au chien. On m'a découragé de prendre un maternat parce qu'on m'a dit on n'arrivera à rien avec ce chien, c'est pas possible, etc. Et du coup, on m'a présenté d'autres chiens, j'étais pas séduit. Et j'ai insisté pour qu'on me présente un matin de Naples. Donc ils ont fait venir un matin de Naples, au chenil où on était. Il y avait une gamelle, le chien s'est mis à boire, il a arrosé tout le monde. Je trouvais ça tellement drôle, je me suis dit vraiment, ce serait dommage de pas avoir un chien comme celui-là.
C'est incroyable quand même. Passe sa vie avec quelqu'un, on l'aime. On veut le meilleur pour lui et puis d'un seul coup c'est fini.
Comme c'était une famille, j'avais envie que tout le monde bouge, quoi. Et donc que la caméra suive, mais j'avais pas envie de couper. Je trouvais que, par exemple, il y a un premier plan séquence, quand on dit plan séquence, ça veut dire sans coupe, quand tout le monde est là dans la maison et quand tout le monde s'en va. Voilà, il y a un moment, j'avais envie, je trouvais que ça racontait un peu plus l'hystérie, quoi, que la caméra panote de l'un à l'autre, qu'il n'y ait pas des coupes, et que ce soit tout du point de vue, justement, de Henri, qui regarde tous ses enfants partir ce soir-là, pour qu'à la fin, quand ils disent à ce chien, t'as réussi à faire ce que j'ai pas réussi à faire, c'est vider toute la maison. Je trouvais que le plan séquence juste avant, qui montrait tout ça, donnait vraiment cette impression-là.
T'aurais préféré faire ta vie tout seul ?
Vous savez, quand on fait un film, il y a toujours des moments qu'on n'aime pas dans le film, des moments qu'on ne sent pas réussis. Alors quand on le regarde, on laisse passer. Et bien là, il n'y en a pas beaucoup. Des moments où il y en a de moins en moins. Des moments où je me bouche les oreilles et que je ne veux pas regarder. Donc mon espoir, c'est un jour de faire un film où je peux le regarder de A jusqu'à Z sans être gêné par rien.
Mon chien stupide d'Yvan Attal, cette comédie est en salle depuis le 30 octobre. Et là, eh bien, on va quitter la Mongolie avec toi, Marine, en début d'émission, pour la Cordillère des Andes avec cet incroyable documentariste qu'est Patricio Guzmán.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
En exil depuis 1973, le réalisateur chilien Patricio Guzmán n'a eu de cesse de fouiller le passé, de ressusciter en images le Chili qu'il a aimé et qu'il a quitté comme beaucoup d'artistes de sa génération. Patricio Guzmán a réalisé plus de 20 films sur le Chili, mais sans y vivre, hein, puisqu'il a quitté son pays natal donc au moment de la dictature de Pinochet, qui avait encore lieu, comme le film le rappelle, jusqu'au début des années 90. Le documentariste, comme il le dit lui-même, aurait pu faire des films légers s'il n'avait pas connu de coup d'État. Seulement, voilà, son cinéma est traversé par les fantômes de la dictature. La Cordillère des Songes est le troisième volet de sa trilogie composée de Nostalgie de la Lumière et du Bouton de Nacre. Ces deux premiers documentaires ayant par ailleurs connu un grand succès dans le monde et au Chili au temps de leur sortie, consacrant le réalisateur comme l'un des plus importants documentaristes de son époque. Dans La Cordillère des Songes, Guzmán fait le constat qu'avec l'urbanisation galopante du pays, ses habitants se sont détournés de la Cordillère des Andes, qui est pourtant véritablement la colonne vertébrale du Chili, son âme, puisque les montagnes composent quand même 80% de la superficie du pays. Et c'est un peu de façon métaphorique, comme si le peuple chilien tournait le dos à son histoire, ce que Guzmán va démontrer en allant à la rencontre de Pablo Sablas, un réalisateur de documentaires qui, lui, est resté au Chili. Et c'est au travers de Pablo Sablas qu'il fait un constat alarmant, bien que Pinochet ne soit plus au pouvoir maintenant depuis assez longtemps, la structure, le système qu'il a mis en place sont toujours là et le peuple ne se révolte pas contre cela. Les écarts de richesse se creusent et les richesses du pays, à savoir le cuivre surtout, appartiennent en grande partie dorénavant aux investisseurs étrangers. La Cordillère des Songes a gagné l'œil d'or à Cannes, c'est-à-dire le prix du meilleur documentaire en compétition. Alors, une chose est sûre, je pense, ce prix ne lui a pas été accordé pour son originalité formelle. Documentaire est, on va dire, extrêmement simple, presque austère, assez contemplatif. Le film porte bien son nom parce que entre les plans justement ultra contemplatifs sur les montagnes et le timbre de voix du narrateur, donc qui est celui de Patricio Guzmán, un timbre de voix très suave et son débit de parole très lent, ça donne un ensemble qui est fortement hypnotique et qui nous donne un petit peu envie de dormir quand même.
Ça dépend de l'état du spectateur. En tout cas, je peux parler de la Nostalgie de la Lumière, effectivement, le premier volet de la trilogie. On avait d'ailleurs rencontré Patricio Guzmán pour ce documentaire. Il arrive à allier métaphysique, astronomie et politique dans un même mouvement de cinéma. Et moi, j'avais été vraiment comblé par ce documentaire. Et j'aurais bien aimé être à ta place et peut-être pas forcément cligner des yeux. Voilà, merci en tout cas, Marine. Ce film et ce documentaire est en salle depuis le 30 octobre, tout comme Le Traître de Marco Bellocchio, là où on va régler les comptes avec la Cosa Nostra qui est tombée. Mais comment ?
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Alors, de ce que j'ai lu ou entreaperçu, la presse est quasi unanime de Télérama. Voici, en passant par les Cahiers du cinéma, pour saluer le nouveau film de Marco Bellocchio, Le Traître. Un film qui s'attache à un sujet passionnant, la Cosa Nostra, et comment plus de 470 membres ont chuté à la fin des années 80, dont certains condamnés à de lourdes peines de prison après qu'un des leurs ait donné leur nom. Cet homme, Marco Bellocchio, en fait le portrait dans Le Traître. C'est Tommaso Buscetta, le premier vrai repenti de la mafia sicilienne. Alors qu'on aurait pu s'intéresser à la figure du parrain des parrains, hein, le sanguinaire Totò Riina, Marco Bellocchio préfère la figure du repenti. Il n'a pas tort. Décidé à éviter le bain de sang qui oppose différents clans, Tommaso Buscetta s'exile au Brésil, et c'est quand il ne peut plus reculer que les siens sont touchés un à un qu'il décide de collaborer avec la justice, et notamment le fameux juge Falcone, un homme qui trouvera la mort dans un attentat perpétré par la mafia au début des années 90. Alors celui qui parle se défend d'être un traître, et c'est là le pivot du film. Les traîtres sont ceux qui ont perverti le système mafieux par soif de pouvoir, alors que la mafia qu'il a connue étant jeune, eh bien, donnait du travail à ceux qui n'en avaient pas, se substituait parfois à l'État. Elle n'est devenue qu'une organisation sanguinaire. Alors lui, il le dit, il préfère la baise au pouvoir, une sacrée différence. Alors de la scène d'ouverture qui annonce le bain de sang, alors qu'il s'agit d'une réunion de paix finalement, aux nombreuses séquences du procès qui mettent face à face le traître avec les prévenus, il se dit des choses importantes. Ici, contrairement au cinéma américain, les mafieux ne sont pas des héros. Le traître est un film passionnant qui non seulement se montre patient avec son personnage principal, il y a trois époques, l'époque où il va au Brésil, l'époque du procès où il revient en Sicile, et puis l'époque où il vit protégé aux États-Unis. Donc, le réalisateur nous gratifie de scènes délicieusement théâtrales, comme celle du procès et d'une reconstitution qui semble être fidèle à certains faits. Et ça vaut bien 2h30 de passer donc avec ce film de Marco Bellocchio. Et on va écouter le réalisateur italien qui était présent à Cannes à la conférence de presse, et nous étions aussi à Cannes.
Le personnage principal est un traître. Du point de vue de Cosa Nostra, du point de vue des traditions mafieuses, du point de vue du passé, du point de vue aussi de la famille dans laquelle il se trouve.
Mais
il est évident qu'il y a deux, même trois significations ici. Trahir pour Buscetta,
une scelta.
C'est un choix extrêmement douloureux, très très douloureux.
Et que però è anche un rifiuto.
Néanmoins, c'est en même temps le refus d'un certain type de mafia dans laquelle il est né et qui a fait des choix qu'il ne partage pas. Buscetta n'est pas un héros, c'est évident. C'est un être humain courageux qui veut sauver sa propre vie, la vie de sa famille aussi. Et d'un certain point de vue,
c'est
un conservateur, car il est empreint de nostalgie, la nostalgie d'un type de mafia qu'il l'a vu grandir, qu'il l'a baptisé, pour ainsi dire.
Non fa parte di quei traditori,
il ne fait donc pas partie de ce type de traître révolutionnaire
tradendo il proprio passato vogliono cambiare il mondo.
Trahissent leur passé pour changer le monde.
I traditori, Che Guevara era un traditore,
les héros qui ont trahi, comme Castro, comme Che Guevara,
Lenin, in qualche modo era un traditore,
comme Lenin aussi. Ce sont des traîtres aussi.
Al maoïsme, era un traditore della mia
le maoïsme aussi était un traître du point de vue de mon éducation catholique. On ne peut trahir sa mère aussi, mais c'est ce genre de traître bien différent.
Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra. E qui sti colleoni si stanno scannando a mezzo mondo.
Questo carattere, come diceva Pierfrancesco, anche questa
sua teatralità
molto costruita,
c'est un personnage qui a une personnalité théâtrale extrêmement bien construite. Il se présente à ce énorme procès, un peu comme si c'était un théâtre.
Cosa che più mi ha affascinato,
et c'est cela qui m'a fasciné le plus. C'est cela qui m'a poussé avec les scénaristes à réaliser ce film. Buscetta n'a pas été le premier à être repenti. Il y a eu Vitale également, mais Vitale, avant lui, avait un brin de folie. Buscetta a été en fait reconnu par Falcone comme quelqu'un d'extrêmement précieux pour faire avancer les enquêtes anti-mafia.
Personnelles soddisfazioni è che
ouais, ce qui m'a donné beaucoup de satisfaction. C'est que le personnage de Falcone
artistiquement pericoloso
était dangereux sur le plan artistique. Il était tellement facile de tomber dans la morale disant qu'il est bien gentil ou qu'il est méchant, etc. Nous avons voulu assécher l'ensemble et en fait déboucher sur une sorte de confrontation dans laquelle le personnage de Buscetta devenait un vrai personnage et pas seulement une sorte de figurine.
Un phénomène humain a eu un début et aura une fin.
C'était Marco Bellocchio, le réalisateur italien, pour le film Le Traître, que je vous recommande absolument. Allez, on termine cette émission maintenant avec Manu qui va nous parler de Yves Boisset. Deux films sont réédités dans une collection Blu-ray.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Jean-Baptiste Torré répare une injustice en éditant deux films majeurs de Yves Boisset dans des copies HD de toute beauté. Alors cinéphile, érudit, admirateur du cinéma de genre, grand pourfendeur de la bêtise humaine, Yves Boisset n'est pas seulement un citoyen en colère, mais aussi un authentique metteur en scène qui a construit une œuvre cohérente alliant divertissement enlevé et réflexion sur les dysfonctionnements internes de notre société. Alors 8 ans séparent Folle à tuer et Canicule. Hein. Dans les deux cas, il s'agit d'une fuite en avant, d'une traque effrénée de marginaux tentant de s'extirper d'un environnement hostile. Seulement, le traitement, tant sur le fond que sur la forme, diffère. Les périodes ne sont pas les mêmes. Ancré dans les années 70, Folle à tuer possède encore des bribes d'espoir, d'un désir de lutte contre un pouvoir en place, un humanisme tendre non dénué de naïveté. Signe des temps, la violence des années 80 éclate dans Canicule, non pas dans un milieu urbain à la mode, dans les polars de l'époque, afin de stigmatiser, on va dire, une jeunesse plongée dans le chaos, mais au contraire, au cœur du monde rural, filmé dans un univers diurne. Alors certainement aigri, hein, suite à des projets qui n'ont pu voir le jour, le cinéaste a perdu ses illusions et laisse éclater toute sa colère et son dégoût des hommes et de son pays à travers un personnage fictionnel issu du passé. Alors de la traque ouverte sur le monde, traitée comme un road movie auscultant le territoire hexagonal, à celle totalement asphyxiante, circonscrite dans un espace-temps archaïque où rien ne bouge, Yves Boisset est à sa manière un observateur lucide de la société française, un satiriste plus proche de l'esprit de Charlie Hebdo, première période, que de l'humanité ou politis.
Vous connaissez Marcelin ?
Oui. Il était chez nous. Il tue les chats.
Il y a beau temps que je ne m'occupe plus des chats, mademoiselle Julie. Et puis il vaut mieux tuer des chats que des gens.
Bon, ça suffit, Marcelin.
Adaptation d'un roman de Jean-Patrick Manchette, hein, Odingo au château, Folle à tuer s'intéresse à Julie Ballanger, héroïne touchante et romanesque qui vient de passer 5 ans en clinique psychiatrique. À sa sortie, elle est engagée par le très riche chef d'entreprise, Michel Hartog, pour s'occuper de son neveu Thomas, le fils de son frère décédé officiellement d'un accident. Alors, lors d'une promenade dans un parc, Julie, l'enfant et le chauffeur sont enlevés par deux malfrats, dont un mystérieux tueur à gages. L'écriture sèche, fragmentée et agressive de Manchette se dilue un peu dans l'adaptation d'Yves Boisset, pourtant aidée par l'écrivain. Les ressorts de l'intrigue liés à des rebondissements parfois maladroits ne paraissent pas toujours crédibles. Mais le réalisateur ne cherche pas le réalisme, il dresse le portrait assez bouleversant d'une jeune femme innocente poursuivie par une horde de salopards et aussi, comme à son habitude, il prend un malin plaisir d'éreinter une bourgeoisie corrompue.
Qui est Louise ? Ça te regarde pas. Celle qui s'occupait de toi ? Celle que je remplace ? Où est-elle maintenant ? Hein ?
Elle est allée avec un nègre. Elle avait peur qu'on nous tue.
Quoi ?
J'ai dit toujours quoi ? Je parle bien quand même. Pourquoi t'as des taches sur la figure, comme ça ? C'est vilain. Votre Louise, elle en avait pas. Elle, au moins, elle n'était pas folle.
Qui t'a dit ça, Thomas ?
Essaye de le dire que t'es pas une folle espèce de menteuse.
Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'une folle ?
Ouais, j'en ai vu à la télé.
Et alors ? Tu trouves que je leur ressemble ?
La fuite de Julie à travers une France picaresque, aussi bien rurale que citadine, permet à Boisset de donner le meilleur de lui-même en filmant les lieux avec un vrai sens de l'observation. Alors cette acuité topographique n'est pas étrangère au rapport cinéphile qu'entretient l'auteur de Dupont-Lajoie avec le cinéma américain. On retrouve cette puissance visuelle identifiée grâce à l'utilisation des décors qui dépasse justement ses attributions décoratives. Le climat inquiétant doit beaucoup à son ancrage dans un environnement hostile. Alors en revanche, Boisset paraît beaucoup moins à l'aise avec les seconds rôles qui ont paradoxalement une fonction purement décorative qu'il s'agit de filmer un paysan ou un gardien d'hôtel. Cette déficience par contre, est largement compensée par l'incroyable distribution qui donne tout son cachet au film. Alors, coproduction franco-italienne oblige, Boissé se devait d'engager une star, ou du moins une figure essentielle du cinéma italien, en offrant au Cubain, il n'est pas italien, mais il a toute sa carrière en Italie, Thomas Milian, le rôle du tueur taiseux, il touche juste et implicitement fait preuve d'une intelligence en lui proposant d'endosser un personnage aux antipodes de ses interprétations excentriques habituelles. Alors l'acteur, qui est très connu dans ses westerns, laisse, on va dire, ses grimaces et gesticulations de côté pour se fondre dans la peau d'un homme mutique au regard d'acier. À ses côtés, Michael Lonsdale et Victor Lanoux sont absolument parfaits. Alors au milieu de tous ces mâles dominants, symbole d'une France patriarcale et misogyne, Marlène Jobert et Julie, soi-disant folle, alors que son séjour en psychiatrie est le résultat du meurtre de son violeur, un haut magistrat. Animée par une soif de vivre, elle se débat pour protéger la part d'innocence qui lui reste à travers l'enfant qu'elle protège. Elle anticipe quelque part le Gloria du film de Cassavetes, à la différence qu'elle n'est pas la mère de l'enfant. Alors cette solide distribution, très courante dans le cinéma populaire des années 70, est au service d'une mise en scène énergique, proche de la série B américaine. Si le dénouement laisse une impression d'inachevé, Folle à tuer prend la forme d'une cavale haletante, portée par une naïveté parfois déconcertante, mais typique d'un cinéma d'une époque, croyant encore à certains idéaux et aux vertus d'un cinéma généreux. Alors par la suite, Boissé ne fera jamais plus preuve d'autant d'optimisme. Moins d'une décennie plus tard, on peut même évoquer une sorte de point de non-retour pour reprendre le titre d'un chef-d'œuvre de John Borman avec Lee Marvin, parachuté dans Canicule.
On parle beaucoup de vous à la radio, Monsieur Cobb.
Ils disent quoi ?
Ils ont parlé de votre caractère. C'est ça qui m'intéressait.
Ils disent rien d'autre ?
Que partout la mort vous accompagne.
Et vous n'avez pas peur ?
Si.
Alors pourquoi vous êtes là ?
Ici, vous ne vous sentirez pas tout seul, Monsieur Cobb. Sur la Beauce, personne ne raisonne comme vous en avez l'habitude. Et les gens la vue perçante. Vous serez obligé d'en passer par quelqu'un. Sinon, vous êtes un mort sur pied.
Très mal reçu par la critique et le public à sa sortie en 1984, Canicule se bonifie avec le temps, devenant même quasi-culte. Pourtant, il ne s'agit pas d'une œuvre avant-gardiste, mais d'un remarquable film empruntant à des genres populaires, à mi-chemin, on va dire, entre le polar violent et la comédie outrancière. Et c'est bien ce côté outrancier, hyperbolique, qui a dû heurter les spectateurs à l'époque. Au départ, Boissé désire réaliser un film politique sulfureux qui tombe à l'eau, sous le coup d'une censure pernicieuse. Finalement, il récupère un projet, adaptation d'un roman de Jean Vautrin, qui ne lui était pas destiné. Alors, se retrouvant alors avec un thriller mettant en scène un acteur culte américain, Boissé se retrouve néanmoins terrain familier. Alors, ce n'est pas une première chez le cinéaste. On a vu Sterling Hayden jouer dans Le Saut de l'Ange, Fred Astaire dans Un Taxi Mauve ou encore Roy Scheider dans L'Attentat. Ils ont tous croisé l'auteur de La Femme Flic. Cependant, ce cas s'avère un peu différent. Lee Marvin y est un peu un héros, un acteur culte à ses yeux, l'homme qui a joué dans des chefs-d'œuvre comme Règlement de compte, À bout portant ou encore Les Douze Salopards, il incarne plus que tout autre le bad guy, viril et droit dans ses bottes. L'idée de plonger une icône du cinéma américain, et en l'occurrence du film noir, au cœur de la France profonde, en compagnie d'une bande de ploucs, a de quoi faire saliver Lee Marvin, croisant alors les chemins de Bernadette Lafont, Victor Lanoux, Jean Carmet, Henri Guibet, tout ça frise un peu le surréalisme. Canicule prend l'allure folle d'un pastiche de roman noir américain, du Jim Thompson rigolard et excessif, dans la lignée aussi du Boris Vian de J'irai cracher sur vos tombes. L'argument est simple, après un hold-up sanglant au cœur de la capitale, un gangster se réfugie en pleine campagne franchouillarde et atterrit au milieu d'une bande de paysans dégénérés.
Vous buvez pas, monsieur l'Américain ?
Je ne bois jamais.
Ah, mais alors si vous buvez pas, il n'y a pas de dialogue possible.
Les dialogues signés Michel Audiard sont drôles, mais d'une crudité inouïe. Les situations scabreuses s'enchaînent et les acteurs se livrent à un concours de cabotinage hallucinant sous l'œil éberlué de Lee Marvin. Alors, entre un Victor Lanoux en beauf lubrique et violent, Bernadette Lafont en nymphomane hystérique, Jean Carmet en abruti, veule et lâche, et David Bennett en jeune garçon qui se rêve grand criminel, c'est un peu la cour des miracles. Si l'enfer existe, Yves Boissé en donne un petit avant-goût, mais sous un soleil de plomb, au milieu des tracteurs, des granges délabrées, des champs à perte de vue et des cochons qui s'ébattent dans la boue. Canicule ne fait pas dans la dentelle ou le politiquement correct. La vision de la province, enfin des bouseux, selon Yves Boissé, peut être jugée dégueulasse et xénophobe, mais l'auteur de Dupont-la-Joie joue la carte de l'excès, de l'énormité, quitte à frôler le ridicule, et livre au final une œuvre bizarre, déviante, se vautrant dans une violence complaisante assez jouissive. Dès la séquence d'ouverture, lors du hold-up, le réalisateur n'y va pas de main morte. Le carnage compte parmi les victimes des enfants, filmés frontalement lors d'une scène d'action remarquablement mise en scène, signant une sorte de désillusion générale. La fin de l'innocence est en marche. La réussite de ce film, hein, toujours sur un fil tendu, on va dire entre ridicule et sublime, tient aussi à sa réalisation impeccable, tranchant avec l'atmosphère crapuleuse, instaurant donc dès lors une distance. Scope magnifique, lumière colorée solaire, mouvement de caméra fluide et découpage classieux détonnent pour un film placé sous le signe de la ville dégueulasserie de nos concitoyens. Alors accompagné d'une présentation par Jean-Baptiste Auray, les films donc sont dispo en combo, on va dire DVD Blu-ray dans le même packaging, hein, dans la collection indispensable Make My Day, éditée par Canal+.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
Après Yvan Attal et Marco Bellocchio, la semaine prochaine, c'est Costa Gavras qu'on écoutera dans cette émission. Et toi Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Moi je vais vous parler de deux films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai découvert à Cannes, le nouveau film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, et un film d'animation français qui s'appelle J'ai perdu mon corps.